Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal, Jacques-Yves Molima.
L'UNICEF appelle toutes les parties au conflit à placer l'intérêt supérieur de l'enfant au centre de leurs préoccupations, à respecter et protéger les établissements scolaires et les centres de santé. Ceci est contenu dans un communiqué rendu public après qu'une école et un centre de santé ont été attaqués en Ituri. Naufrage d'une baleinière en amont de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Depuis dimanche dernier, le bilan encore provisoire fait état de plusieurs disparus sur près de 600 personnes qui étaient à bord de cette embarcation. Jusque-là, juste 3 corps ont été repêchés. Enfin, le réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice inquiète de la libre circulation des armes à feu de fabrication artisanale dans le Grand Équateur. En effet, beaucoup de personnes se procurent des armes à feu pour faire face à l'insécurité sans le respect des procédures. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Gérard Lilengue, le coordonnateur provincial de ce réseau. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Mais avant tout, sachez que Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, ne démissionnera plus. La voix du peuple triomphe toujours. Il a tout compris. Une page de l'histoire est irrésistiblement tournée, indique Maître Emmanuel Kahaouya, son chef de cabinet, dans un bref message publié sur les réseaux sociaux ce jeudi. Une école primaire et un centre de santé de Péti en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, ont été ciblés par une attaque survenue le 15 janvier dernier, acte que le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, déplore dans un communiqué daté du 20 janvier 2022 et parvenu à Radio Kapi. D'autres détails de ce communiqué de l'agence onusienne avec Honoré Missenga Kalala.
L'UNICEF appelle toutes les parties au conflit à placer l'intérêt supérieur de l'enfant au centre de leurs préoccupations et à respecter et protéger les établissements scolaires et les centres de santé. Depuis 2018, lit-on dans le communiqué de l'agence, au moins 109 écoles et établissements de santé ont été attaqués en Ituri. Elle rappelle qu'en période de tension politique, les milieux scolaires ainsi que tous les services de base essentiels à la survie, au développement et à la protection de l'enfant doivent être des sanctuaires inviolables. L'école est un espace privilégié d'apprentissage, de socialisation, de protection et de construction de la citoyenneté, explique encore le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, soulignant par ailleurs que c'est depuis plus de 5 ans que l'Ituri faisait face à une hausse de l'insécurité à la suite d'attaques d'hommes armés contre des civils. Peti, où la dernière attaque a été menée contre une école et un centre de santé, est un village situé à environ 7 km à l'ouest des Bambou Centre, à environ 41 km au nord-ouest des Bounia.
À Uvira, au sud Kivu, la ville a repris son allure normale datant après 3 jours de tirs entendus sur les collines surplombant les communes de Mulongwe et de Kanvivira. Pour l'instant, les FARDC continuent à se déployer sur les collines à la poursuite des assaillants qui sont une coalition des miliciens Mai Mai avec des rebelles burundais du FNL. Lundi dernier, 5 personnes ont été tuées, dont 3 soldats des FARDC ainsi que 2 civils. Mardi, le lendemain donc, une position des FARDC a été attaquée et leur campement incendié par les assaillants. Fiston Goma.
Les commerces ont repris au centre de Mulongwe. Ici, on pouvait assister depuis tôt le matin à une ambiance comme si rien ne s'était passé les 3 derniers jours sur la ville. Partout dans les écoles, élèves et écoliers se sont présentés et ont étudié normalement. Le coordonnateur de la société civile des nationalistes congolais, Willy Seremba, dit avoir effectué une tournée à Kasenga, à Mulongwe, ainsi que vers l'hôtel de ville à Kimanga, affirme que tous les services étatiques ont fonctionné sans difficulté. Cependant, selon lui, la psychose se lit encore sur le visage des habitants qui ont observé depuis mercredi le déploiement des troupes des FARDC fortement armées vers les sommets des collines surplombant la ville. Le porte-parole de l'armée à Uvira, le major Dieudonné Kasereka, confirme ce déploiement des troupes loyalistes dans la zone. Nous avons renforcé nos positions et pris toutes les dispositions pour que cette aventure ne survienne plus, a rassuré l'officier des FARDC. Mardi dernier, le commandant du 3e secteur sud des casques bleus pakistan de la MONUSCO, le général de brigade Ahmed Jawad, a participé à une reconnaissance aérienne conjointe avec les FARDC sur toute la zone montagneuse d'Uvira. D'autres patrouilles de combat ont été organisées après l'attaque des assaillants qui avaient fait 5 morts, dont 2 civils. D'Uvira, Fiston Mamayabala, Radio Kapi.
Des leaders communautaires, des membres des organisations de la société civile ainsi que les membres du comité urbain de sécurité de la ville de Beni ont été informés ce jeudi sur les bombes artisanales, leurs dangers et la manière de se comporter quand on y fait face. C'était au cours d'une séance organisée par les services antimines de la MONUSCO UNMAS sur une initiative du maire de Beni, André Kitenge.
Ils étaient nombreux à participer à cette séance d'information animée par un expert du service antimine de la MONUSCO dans la salle Thomas d'Aquin de la mairie de Beni. Pour le maire de Beni, il était nécessaire que la communauté soit informée sur la manière de se comporter en cas de découverte d'un engin explosif. Le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachali.
Ici à Beni, nous nous sentons toujours menacés par nos ennemis, les ADF, qui opèrent autrement en posant des bombes par-ci par-là. Alors comme nous avons des experts ici des UNMAS, j'ai préféré les inviter pour qu'ils puissent nous donner des informations.
De leur côté, les participants ont exprimé leur joie d'être informés au sujet des engins explosifs et d'apprendre les bons gestes à poser quand on est en présence d'un objet suspect que l'on ne sait pas forcément identifier. C'est le cas du chef de quartier Kassabignolé dans la commune de Rwenzori, Norbert Kitobi Sinamouli.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de prévenir la population de ne pas se précipiter là où il y a les engins explosifs pour éviter beaucoup de dégâts. Si une fois vous constatez que cet effet est explosif, la première chose d'abord c'est de s'écarter et puis informer à qui de droit.
UNMAS va organiser dans les prochains jours des démonstrations dans la ville afin d'apprendre aux communautés comment se comporter en cas de découverte d'objets suspects dans la ville. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Dans la province de l'Équateur, naufrage dimanche dernier d'une baleinière sur le fleuve Congo à 105 km en amont de Mbandaka. Nous ne l'avons appris que ce jeudi. Le bilan provisoire fait état de plusieurs disparus parmi les 600 personnes qui étaient à bord avec leurs marchandises. À peine 3 corps des victimes ont été repêchés, mais plusieurs autres seraient encore sous les eaux, indiquent des témoins. Récit de Paul Richard Malengela.
Des rescapés retournés en Mbandaka affirment que la baleinière appartenant à un certain armateur Ouéra a chaviré dans la nuit de dimanche à lundi dernier. L'embarcation en bois était dans un état vétuste. C'est ainsi qu'elle a connu sa dislocation au milieu du fleuve sous l'effet de la surcharge. Témoignage d'Anissé Bobamba, l'un des rescapés qui a tout perdu. La baleinière était vieille. Sa partie supérieure s'est abattue soudain sur les passagers avant la dislocation totale de l'embarcation. Nous nous sommes accrochés au bois sec qui flottait, d'autres personnes sur des bidons vides. Mais il y a eu des morts enfouis dans la coque de la baleinière. À bord, nous étions à peu près 600 passagers. Le commissaire fluvial de Mbandaka Kompetamboyo a avancé le nombre de 180 disparus dont des blessés. Ils ont été répertoriés par l'équipe d'un député élu de Bomongo. À leur arrivée à Mbandaka, ils ont bénéficié d'un appui du gouvernement provincial, a-t-il ajouté. Mais nombreux sont des commerçants et des vacanciers qui ont tout perdu. Ils sollicitent l'appui financier des autorités et des personnes de bonne volonté. Enfin, plusieurs rescapés ont apprécié l'intervention des éco-cadres de l'ICCN basés au poste d'Ipombo, lieu du naufrage, avec certains pirogués des campements environnants, ils les ont recueillis puis ramenés sur la terre ferme, ont-ils témoigné. Mbandaka pour Chemalingue, la radio Okapi.
Direction Sud Kivu, le centre de capture des passeports biométriques a rouvert ses portes à Bukavu après plus de 5 mois de fermeture. Cela à cause de l'incendie du 15 septembre 2021 qui avait endommagé le bâtiment de la poste où se trouvait ce centre. Le centre de Bukavu est l'unique pour délivrer les passeports dans toute la partie est du pays. Cynthia Bachizi s'est rendue sur les lieux pour voir comment se déroule la reprise.
Premier changement pour cette réouverture, l'adresse physique. En effet, le centre de capture est désormais situé dans un immeuble juste en face de la grande poste, et cela au grand bonheur des requérants. Témoignage d'un étudiant.
On devrait normalement continuer notre formation à l'étranger. Malheureusement, faute de passeport, on a été retardé. En tout cas, c'est un autre soulagement parce que maintenant on passe la commande. On espère qu'on ne sera pas en retard parce qu'il y a des offres qui sont en train d'expirer. Nous avons vraiment besoin de notre passeport.
À côté des heureux figurent quelques inquiets, c'est notamment ceux qui avaient déjà fait toutes les démarches pour l'obtention de leur passeport biométrique, mais dont les données ont été perdues dans l'incendie.
On est arrivé ici, j'ai payé tous les frais requis pour l'obtention du passeport le même jour que je finis avec la capture. L'incendie est survenu au poste et tous les biens ont été consumés par le feu. Nous attendons que le gouvernement puisse répondre à notre requête car nos activités sont bloquées, notamment les voyage.
Le directeur de ce centre de capture demande de la patience à tous les anciens requérants victimes de l'incendie de la poste. Les démarches sont en cours pour régulariser la situation, rassure Anselme Pongé. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Et puis la gestion des fonds alloués au Covid-19 a été très opaque. Ces termes se trouvent dans le rapport qu'a rendu public hier jeudi ici à Kinshasa, le mouvement Filimbi en collaboration avec l'Observatoire de la dépense publique ODEP. Ces rapports portent sur la gestion de ces fonds affectés par l'État à l'hôpital général de référence Ex-Mamayemo. Pour Filimbi, après analyse des documents financiers, l'hôpital n'arrive pas à justifier plus de 600 000 dollars américains. Qu'est-ce qui a motivé Filimbi à mener cette enquête? La réponse avec Rachidi Malundama, chargé des comptabilités et finances pour ses contrôles. Il est au micro de Philbert Balolagué.
Au regard des éléments en notre possession, notamment les rapports financiers établis par les responsables de Mamayemo, sur l'ensemble des fonds que Mamayemo a perçus, soit plus de 600 000 dollars américains, les rapports envoyés au ministère ne retracent qu'un peu moins de 90 000. Donc de là, on s'est posé mille et une questions. Pourquoi Mamayemo n'arrive pas à justifier les fonds à hauteur de 600 000 dollars? Et de là, on est arrivé à comprendre qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont à la base, notamment une cacophonie sur une double nomination des gestions de cet hôpital. D'une part, il y a le gouverneur qui a nommé et de l'autre, il y a le ministre. Et dans la foulée, il y a eu, semble-t-il, des désordres. Et selon les responsables de cet hôpital, c'est que dans ces désordres-là, que certains éléments de la police auraient emporté des pièces. Et donc, de là, on s'est dit, dans notre rôle de citoyen, nous allons nous lancer dans une enquête visant justement à adresser une certaine traçabilité de ces fonds.
Contacter le médecin directeur de l'hôpital général de référence a promis de réagir dans les heures qui viennent. Dans la province de la Tchopo, la police a dispersé ce jeudi une marche organisée par les jeunes réunis au sein d'une association dénommée Dynamique des jeunes d'Issangui. Ces derniers exigent la démission de l'administrateur du territoire d'Issangui qu'ils accusent d'être l'auteur du désordre dans différentes entités de cette juridiction. Au cours de cette marche, tout en tirant de coups de feu, la police a procédé à l'arrestation de quelques jeunes, dont une journaliste de la radio communautaire Bondeko, venue pour couvrir cet événement. Témoignage du président de la société civile d'Issangui, Joseph Bassaï, a été joint au téléphone par Jacques Moukonkolé.
Ils accusent l'autorité territoriale d'organiser des conflits dans les secteurs de chefferie et même dans les groupements. C'est le cas, par exemple, dans les secteurs Yaoundé. Si Bassi ou quelqu'un qui a des problèmes à la mairie, on l'a imposé ici alors qu'on a suspendu ce qui était là comme intérimaire. Et c'est comme ça, par exemple, aussi dans la chefferie Condé, nous avons validé un document qui dit qu'il faut diviser la chefferie et ça crée des conflits. À Yanongé, c'était la même situation. À Ilambi, c'est un groupement. Là, il y a même des morts. Alors, les jeunes ont trouvé que non, tout ça, c'est l'administrateur qui l'organise pour tirer des profs. C'est pourquoi les policiers sont allés disperser vraiment en tirant comme vous suivez là. Il y a même une journaliste qui travaille à la radio Bondeko qui a été torturée. On l'a arrêtée. Jusqu'à présent, elle est en prison. Il y a aussi d'autres jeunes qui sont arrêtés. Vraiment, l'insécurité est là. Les écoles sont à côté. Les enfants ne savent pas rentrer. C'est une situation totalement confuse.
L'incriminé Joseph Mindenga, administrateur du territoire d'Issangui, n'a pas été joignable pour se prononcer à ce sujet. Autre nouvelle, au Nord Kivu, le parti politique Nouvel Élan, cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu, plaide pour un consensus plus large le plus tôt possible pour que la RDC réussisse les élections de 2023. La déclaration a été faite aux médias ce jeudi à Goma par le coordonnateur chargé d'implanter ses partis en province. Celui-ci estime en effet que l'évolution des enjeux politiques du moment plonge progressivement les acteurs politiques dans le désespoir car il se demande si les élections se tiendront à l'échéance constitutionnelle. Maître Yannick Ramazani l'a dit au micro de Bernard Nyangi.
Il n'y a pas de signaux qui prouvent que nous aurons les élections en 2023. Et aujourd'hui, avec la CENI, il y a le moyen financier, matériel, les moyens humains ne sont pas encore réunis. Les agents de la composante de cette CENI, aujourd'hui, qui fait l'objet de la division de la classe politique. Vous aviez lu le communiqué de la coalition Lamuka, signé par l'autorité morale, l'ancien premier ministre, son excellence Adolphe Muzito. Il a péri le lendemain. À ce qui concerne la composante de la CENI. Vous aviez attendu celui-là qu'on vient de nommer aujourd'hui à la tête de la CENI. Il a dit, il n'a pas les moyens. On doit entamer la loi sur les répartitions des sièges. Mais jusqu'à maintenant, Rien du tout. Et cela ne nous rassure pas qu'on peut aller aux élections qui va s'incarner avec une légitimité. Et c'est pourquoi nous sommes là pour interpeller les autorités qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il faut un consensus plus large, le plus tôt possible. Et nous appelons la vigilance du peuple congolais. Nous ne tolérons aucune seconde de glissement en 2023.
Actualité internationale.
Au moins 17 personnes sont mortes et 59 autres ont été blessées hier jeudi dans l'explosion qui a dévasté une partie du village d'Apiaté dans l'ouest du Ghana, provoqué par un accident impliquant un camion transportant du matériel explosif, a indiqué dans la nuit le gouvernement. Et puis la justice américaine a annoncé ce jeudi l'inculpation des responsables gouvernementaux biélorusses accusés d'avoir fait dérouter en 2021 un avion de Ryanair pour arrêter un journaliste d'opposition qui était à bord. Le déroutage de l'avion avait déclenché un tollé international et avait conduit l'Union européenne à imposer des sanctions à la Biélorussie. Ici.
L'invité.
Le réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice s'inquiète de la libre circulation des armes à feu des fabrications artisanales dans le Grand Équateur. En fait, beaucoup de personnes se procurent des armes à feu pour faire face à l'insécurité, notamment les Kulunas. Pourtant, il y a une procédure légale en la matière. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Gérard Lilengue, coordinateur provincial de ce réseau. Il s'entretient ici avec Paul-Richard Malengela. Suivez.
Révérend Gérard Lilengue, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi votre campagne de sensibilisation sur la circulation des armes légères à travers le Grand Équateur?
Nous avons pensé organiser une campagne de sensibilisation parce que les armes légères qui étaient autrefois achetées pour la chasse et pour la protection individuelle, aujourd'hui est devenue des armes qu'on utilise pour insécuriser, pour voler.
Vous avez dit que ces armes servent aussi à la sécurité. Alors la détention, le port et l'utilisation des armes légères, en l'occurrence sur les Yakoma, sont-ils un droit civil? Si oui, quelle est alors la procédure légale en la matière?
Au fait, c'est oui, parce que la loi 85-035 du 3 septembre 1985 autorise la population à porter des armes légères qu'on appelle les armes de chasse. Et ces armes qui servent pour la survie. Et parmi les armes légères, il y a le Yakoma. Mais pour porter une arme, la procédure, c'est qu'il faut obtenir au préalable le permis de port d'armes. Donc si on veut avoir un permis, on doit aller voir le ministre de l'Intérieur pour identifier son arme, si vous l'avez déjà, ou alors demander un permis avant pour dire que je vais acheter une arme pour telle raison, pour telle raison. Et le ministre, avec ses services, ils vont apprécier et vous donner le permis de port d'armes.
Donc à part ça, c'est une détention illégale?
Oui, en dehors de l'autorité de permis de port d'armes, c'est une détention illégale qui est d'ailleurs une infraction. Parce que dans la loi que je viens de citer, il y a des infractions et des amendes à payer quand vous portez une arme. Alors à l'époque, c'était en Zaïre. On peut aujourd'hui dire que l'équivalent peut aller de 200 $ en montée. Ça dépend de type d'armes que vous avez.
Nous sommes dans le Grand Équateur. Les armes légères ont-elles le même risque que dans la partie est de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui vous inspire cette crainte?
Bon, les armes légères ont les mêmes conséquences. Parce que quand les gens utilisent ces armes, prenons les cas de bandits. C'est pour tuer, c'est pour dévaliser, c'est pour commettre des bavures de toutes sortes. En plus de cela, la province de l'Équateur avait connu la situation des Agnellés. Les armes que les Agnellés ont utilisées n'étaient pas des armes militaires, c'était des armes de fabrication locale, donc les armes Yakoma. En septembre de 2012, si je ne m'abuse, il y avait un groupe de jeunes qui s'étaient levés dans la ville de Mbandaka et qui ont barré la route de l'aéroport. Ils ont empêché les gens d'aller à l'aéroport, ils ont empêché ceux qui étaient venus dans l'avion pour sortir. Il fallait une intervention militaire pour les déguerpir. Et ces gens étaient armés. Donc c'est l'arme Yakoma qu'ils avaient en possession et qui leur donnait la force. Et aujourd'hui, on voit des bandits, des Kulunas utiliser ces armes-là. Et on a la crainte qu'un jour, quelqu'un puisse rassembler le Kulunas avec des armes Yakoma et créer une mutinerie dans la ville ou dans la province. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas fermer les yeux. Voilà pourquoi nous avions été intéressés, considérant le nombre de cas de vols armés qui se passent dans la province de l'Équateur d'une manière générale.
Enfin, comment comptez-vous faire réglementer la circulation tant auprès des autorités que de la population elle-même?
Nous avions commencé avec les structures de la société civile, les autorités étatiques. Nous avions organisé une tribune d'expression populaire. On a aussi écrit un mémo à l'issue de cette tribune d'expression qu'on avait adressé au ministre de l'Intérieur, qui représente les gouverneurs de province. Et on fait la sensibilisation à la radio, où on va sensibiliser la population d'une manière générale, aussi les autorités. Donc nous allons continuer à marteler sur notre mémo pour que l'autorité puisse prendre en compte ce qu'on lui avait demandé dans le mémo. Aussi, on a demandé à l'autorité de faciliter les gens, parce qu'aujourd'hui il y a l'ambroglio. Il y en a qui disent que c'est le service de l'environnement qui octroie le permis de port d'armes, ce qui n'est pas légal. L'autre disent que c'est l'ANER. L'ANER fait le recensement et le renseignement, mais ne donne pas le permis. Donc on doit montrer aux gens chez qui aller demander pour que les gens ne puissent pas porter des permis qui n'ont pas de valeur en principe quand ils vont dans des services qui ne représentent pas valablement l'État.
Monseigneur Gérald Lilingué, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.